La menace, elle est partout, et c'est pas étonnant, parce que la menace, étymologiquement, c'est ce qui est saillant, ce qui est proéminent, ce qui fait qu'on voit plus que ça. Alors face à la menace, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 solutions, hein. Fermer les yeux, détourner le regard, choisir de ne pas voir, partir aussi, fuir dans un endroit retranché, dans un autre pays, ou se battre contre vents et marées, contre cet ennemi intérieur qu'on nous dit. On peut apprendre aussi à se protéger dans un de ces nouveaux guides de survie, il suffit d'aller dans une librairie. On peut surveiller, suspicieux, sécuriser du mieux qu'on peut, quitte à se priver de toute liberté, ou alors faire un pas de côté. Lire, par exemple, un roman d'aventure, un texte fantastique, un poème d'ailleurs. Avancer, comme disait le philosophe Henri-David Thoreau, non pas en fermant les yeux, en détournant le regard, en choisissant de ne pas voir. Avancer, non pas pour de faux, mais pour de vrai. Avancer dans la direction de ses rêves.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a jamais cessé d'avancer dans la direction de ses rêves. Elle est romancière et dans son dernier livre, Le Grand Jeu, elle explore avec finesse la complexité du lien qui nous unit au monde et aux autres. Elle nous invite surtout, par l'expérience de la littérature, à une salutaire prise de distance. Bonjour Céline Minard.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. J'ai employé le mot menace, pas par hasard, parce qu'il est partout dans votre livre. Qu'est-ce qui vous évoque à vous, à votre avis, ce menace aujourd'hui? Ce mot menace, pardon.
Mais il est partout, effectivement. Il est partout comme une réalité fantomatique, parce que c'est ça la menace, une réalité fantomatique et omniprésente. Et je pense que ma narratrice fait ce pas de côté, mais pour mieux creuser ce que c'est que la menace.
Alors c'est quoi, précisément? Quelle menace? De quoi on parle?
On parle de toutes sortes de menaces. Et c'est quoi, précisément? C'est un surplomb. Elle le prend au niveau du surplomb de façon très concrète pour le déplacer après. Elle déplace la question pour mieux justement la saisir. Et elle le met dans le surplomb en montagne, cette espèce de masse qui est en train de tomber au niveau géologique, mais auquel notre temps humain ne peut pas accéder. C'est une chute qui est en train de se faire, qu'on sent, mais qu'on ne voit pas.
Dans Le Grand Jeu, vous écrivez que la menace, c'est aussi le putsch de l'autre contre soi. Et puis vous dites, la menace est un guide précis dans nos vies. Je me suis demandé quelle sorte de guide.
Un mauvais guide, mais un guide précis parce qu'il ne laisse pas beaucoup de choix.
Alors qu'est-ce qu'on fait face à la menace? On l'explore, on l'interroge?
On la creuse, on l'interroge, on va au noyau de ce que c'est et on risque sa vie, je pense.
Qu'est-ce que la présence constante et fantomatique de cette menace, comme vous dites, vous a invité à interroger, vous, Céline Minard?
La relation humaine, de quoi elle est faite la plupart du temps? Qu'est-ce que c'est qu'une domination? Qu'est-ce que c'est qu'une promesse aussi? C'est assez proche, la promesse et la menace. Et en quoi ça guide mal les vies?
Vous écrivez, page 147, « Ce monde n'est pas fait pour nous, et c'est un immense soulagement. Il n'est pas fait pour nous, on peut donc y vivre. » Si on y parvient, qu'est-ce que vous voulez dire par immense soulagement? Qu'est-ce qui soulage, en fait, dans le fait d'être inadapté au monde?
Ça soulage parce que ça ne dépend pas de nous. Et il y a quelque chose d'extrêmement libérateur là-dedans. C'est, on n'a pas à en répondre. C'est pas nous qui l'avons fait, et c'est nous qui y vivons. Pas très bien, généralement, et on prend beaucoup de place, l'humain prend beaucoup de place sur Terre. Mais on n'en est pas responsable. Non pas de cette place, mais de ce monde. Et prendre conscience de ça, c'est quelque chose que moi je trouve libérateur.
Vous nous déculpabilisez en fait.
Bien sûr. Mais en fait, se sentir coupable, c'est une erreur, en l'occurrence.
La question que vous posez en fait, c'est comment vivre, hein? De quelle façon est-ce que l'écriture, l'expérience de la littérature en l'occurrence, vous permet de répondre à cette interrogation, vous?
Comment vivre, c'est vraiment la question éthique par excellence, et la littérature et la marche et la montagne et tout ça donnent au moins des orientations, si ce n'est un sens, une orientation à ça. Comment vivre? Sur quoi on se mesure? À quoi on se mesure? À quelle aune? Selon quel étalon? Quelle est la rampe?
Il y a cette phrase que j'aime beaucoup. La description sans jugement, sans inclination est peut-être la seule discipline nécessaire. À quoi? À l'accueil du monde. Et là, on dirait que c'est l'écrivain qui parle, Céline Minard. Cette phrase, elle est dite par votre narratrice, qui, dans sa retraite et ses méditations, après s'être isolée, après s'être coupée de la société, érige la capacité à décrire le monde qui l'entoure comme une sorte de méthode, comme une règle ou comme une conduite. Et je me pose la question, à quelle règle est-ce que vous obéissez, vous, Céline Minard, quand vous écrivez un roman ?
Je ne sais pas si j'obéis à beaucoup de règles. À celle d'écrire, déjà.
À celle de décrire.
C'est déjà pas mal. Et à celle de travailler les représentations, effectivement. Mais de les travailler avec une espèce de naïveté dans l'abord des choses. Et d'observation. J'essaie de ne pas utiliser des images qui sont déjà préformées et de capter réellement à la fois la sensation et le mouvement ou l'aspect d'une chose.
Et dans la vie, vous obéissez à des règles ?
Pas tellement non plus.
C'est ça aussi de ne pas céder à la menace ? C'est désobéir.
Ça, très certainement. C'est peut-être pas désobéir, c'est peut-être même pas désobéir. C'est juste suivre son chemin, avoir conscience qu'il existe et puis y aller.
Alors concrètement, c'est quoi dans la vie, suivre son chemin et y aller ? C'est partir ? C'est s'en aller ?
Pas forcément, non.
Vous par exemple, comment vous faites ? Vous écrivez quoi ?
J'écris, je m'en vais des fois, mais je reviens. C'est pas.
Vous partez
pas...
où ?
Bon, ça m'arrive de partir en montagne, mais.
C'est bien de le savoir. C'est qu'il y en a une qui n'obéit à aucune règle, ici, dans cette émission, qui ne cède jamais rien à personne, pas même à moi. C'est la culture et son actualité rebelle qui mériterait, si vous voulez mon avis, un petit peu de discipline. Quelle est-elle donc, l'actualité de la culture, aujourd'hui, mardi 13 septembre ? Les corps mènent la danse au musée des Confluences, à l'occasion de la Biennale de la danse qui commence demain à Lyon. La nouvelle institution culturelle de la ville accueille dès aujourd'hui Corps Rebelles, une grande expo interactive retraçant l'histoire de la danse contemporaine. Liant l'image au mouvement, l'événement, qui se visite avec un casque, interroge les enjeux esthétiques, sociaux et politiques du corps mouvant au XXe siècle. Au programme, extraits de pièces, interviews de chorégraphes et même un atelier pour tester son swing avec bottes impaires et bonnet stylé.
C'est votre livre préféré.
La rentrée littéraire a démarré.
Alors, votre sélection.
Qu'est-ce que vous espériez trouver ? Le bonheur dans les livres ?
Des bonheurs dans les listes aussi, surtout pour Yvan Jablonka, dont le livre Laetitia ou la fin des hommes, texte à mi-chemin de l'enquête, de l'essai et du récit, fait partie de la première sélection du prix Médicis, révélé hier. Déjà présent sur celle du Goncourt et du Renaudot, Jablonka fait désormais office de grand favori dans la course au prix d'automne. Et bonne nouvelle, parmi les 14 romans français en lice pour ce Médicis 2016, on retrouve aussi le vôtre, Céline Minard. Hasard, coïncidence, non, effet boomerang, fiu-fiu. Berghain, passionnément, le club mythique de Berlin, si difficile d'accès, vient d'être élevé au rang de haut lieu culturel de la ville, au même titre que les théâtres, les salles de concert ou les musées. Temple de la techno européenne, cette ancienne centrale électrique de style stalinien accueille aussi ponctuellement des concerts de musique classique, des ballets ou des expositions de photographie. Mais avant de se cultiver, il faudra d'abord être adoubé par Sven, le célèbre cerbère à tatouage de la porte. Rarement l'art et la culture n'auront été aussi difficiles d'accès. The White Album, toujours dans le vent, le premier exemplaire du 9e opus des Beatles, surnommé l'album blanc, à cause de sa pochette immaculée, est officiellement devenu le disque le plus cher de tous les temps. Un fan fortuné a en effet déboursé 620 000 euros pour s'offrir l'édition originale du double vinyle, jusqu'alors détenu par Ringo Starr himself, Obladi Oblada, ça coûte un bras. C'est à cause de ma rime que vous regardez.
Non, mais vous ne l'avez pas slamé, c'est pas bien.
Non, je n'ai pas slamé le Obladi Oblada, je ne vais pas m'humilier jusqu'à ce point. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir, vous, Céline Minard ? Est-ce que vous êtes plutôt danse, prix littéraire, techno ou Beatles ?
Ah, je serais plutôt danse, très clairement.
Prix littéraire quand même ?
Mais non.
Vous êtes contente d'être dans le prix Médicis ?
Mais oui.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, mais ce n'est pas l'effet boomerang.
C'est la qualité de votre livre, c'est ça ?
Qui sait ?
Ouais, qui sait ? On ne sait jamais. C'est à l'ancienne libraire que je m'adresse, là. Ça compte, un prix littéraire, quand même ? C'est pour vous, là, en tant qu'écrivain, c'est-à-dire que l'expérience de libraire vous dit que ça compte et qui...
Bah, c'est à l'ancienne libraire ou à l'écrivain que vous demandez ?
Un peu aux deux.
Un peu aux deux. Oui, ça compte.
Oui. Vous stressez, du coup, une rentrée littéraire? C'est important? C'est... Dans quel état vous êtes?
Ça va, ça va.
Je rappelle, vous êtes l'auteur de nombreux romans. Celui-ci est, je crois, le 8e. Je me trompe?
10e, je crois, mais...
10e?
Enfin, oui.
Il y en a qui sont pas tout à fait
des romans. Il y en a qui sont pas tout à fait des romans.
Des romans, voilà, c'est ça. Et je le rappelle, vous êtes l'auteur quand même de ce livre western assez formidable, Faillir être flingué, qui avait reçu le prix du livre Inter il y a 3 ans. Votre nouveau livre, il s'appelle Le Grand Jeu. Et en vous écoutant parler, tout à l'heure, on a déjà compris qu'il était traversé quand même par la philosophie. Quel rôle est-ce qu'elle a eu, la philosophie, Céline Minard, dans votre parcours d'écrivain?
Un rôle assez discret et assez souterrain, je pense. En même temps, c'était toujours présent dans ce désir de spatialisation qu'il y a dans mes livres, de spatialisation de la pensée. Je pense que c'est comme ça qu'elle a été la plus présente.
Alors c'est d'ailleurs intéressant parce que l'espace, justement le lieu, c'est une dimension essentielle de votre travail. Et j'ai l'impression que pour vous, parcourir un espace, c'est déjà raconter une histoire.
Tout à fait. C'est raconter une histoire, c'est plonger dans un territoire, c'est plonger dans une histoire pour moi. Une histoire narrative et une histoire plus de l'épaisseur du temps. Et c'est très très lié. Et la marche ou le parcours, le déplacement est très lié aussi au déplacement des mots dans la phrase et au jeu.
Ça veut dire que raconter des histoires, en fait, pour vous, c'est arrivé comment? C'est arrivé lors d'une expérience, justement, de... C'est arrivé tard, je crois, déjà.
C'est arrivé assez tard, oui, puisque j'ai commencé à écrire vers 33 ans. Mais enfin, ça couvait, disons, depuis un moment, depuis très longtemps même. Et c'est assez lié, effectivement, à un réapprentissage de la marche à pied.
C'est-à-dire que vous écriviez quand même depuis longtemps quand vous dites ça couvait?
Non.
Non.
Ah non, j'écrivais pas.
Vous êtes vraiment mise à écrire?
Je me suis mise à écrire.
Alors concrètement, à l'issue d'une marche?
Non, à l'issue d'une rééducation. Marcher.
Et l'éducation après un accident?
Après un accident assez bénin, mais qui m'avait immobilisé. Donc j'ai réappris à marcher, et réapprenant à marcher, j'ai réappris à lire et j'ai commencé à apprendre à écrire.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de salutaire dans la littérature pour vous?
Ah oui, bien sûr.
Qui sauve, en fait, littéralement?
Qui sauve, qui permet de respirer.
Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est une façon de se mettre à l'épreuve aussi, non? De se dépasser, de s'augmenter. Parce que c'est ça, en fait, l'expérience de votre narratrice dans le livre. C'est pour ça que je vous pose la question.
Je pense que c'est une façon de s'ouvrir et de laisser passer le paysage à travers soi. Et c'est aussi quand on marche, quand on est un peu fatigué, que les endomorphines commencent à agir. Il y a beaucoup de choses qui s'écartent d'elles-mêmes. Et on arrive à des pensées et à des associations hasardeuses. Mais généralement, ça peut être assez joli.
C'est pour ça que vous décrivez tout le temps, toujours?
Je ne sais pas si c'est pour ça. Je pense que la description, c'est un acte aussi en littérature. Ça fait action.
Vous n'êtes pas du genre à les passer, les descriptions, vous savez, quand on est un mauvais lecteur de Zola ou de Balzac, on passe les descriptions, on passe à autre chose.
Si, je suis du genre à les passer.
Bah alors?
Bah oui, mais elles ne font pas toute action.
Ouais. Alors en quoi les vôtres font action?
Ben c'est à vous de me le dire, ça. C'est une chose que j'espère.
Par
je
leur
sais pas.
Verbe, Céline Minard. C'est ainsi qu'elles font action. On va continuer à en parler, évidemment, de littérature, d'aventure et de rencontres, juste après une chanson qui, étrangement, me fait penser à vous. Heart of Gold, Neil Young, revu par Johnny Cash, dans Boomerang.
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I'd cross the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Sur France Inter, Augusta Trapenard.
Il faut dire que derrière sa belle voix, elle est comme ça en fait. Elle a l'air un peu de s'en foutre d'être là, des conventions, de tout le tralala, du genre à se faire la malle sur un coup de tête, du genre à s'en aller camper dans la montagne, d'ailleurs elle l'a dit, hein, sans prévenir ses parents, ses voisins ou son chat. Tout ça dans son visage, si vous pouvez la regarder, un visage allongé, extrêmement concentré. Dans son regard aussi, hein, bleu clair, tantôt fuyant, tantôt glaçant. Vous transperce, vous savez, avec une sorte d'acuité. Elle a une certaine fragilité aussi, quand même. Queue de cheval, un peu lâche, chemise grise, blue jean. Ça y est, j'ai trouvé. Banco, c'est une ado. C'est une ado, hein. C'est ça, Céline Minard, invitée de Boomerang pour son nouveau roman Le Grand Jeu, l'histoire d'une femme qui s'installe, sans qu'on sache vraiment pourquoi, dans un refuge high-tech en haute montagne et qui décide de se mettre hors jeu, en fait. Et il se trouve que sa tranquillité va être troublée par une curieuse apparition. Une femme entre la créature d'un film de Miyazaki, la nonne, le moine et le tas de laine. Est-ce que vous pouvez nous la décrire,
mais vous cette l'avez créature parfaitement fait.
Mais vous, comment mais vous la voyez?
Comme ça.
Non.
Chauve, assez chauve, ouais. Assez vieille, édentée, imprévisible.
Alors qu'est-ce qu'elle vient troubler, cette créature, Céline Minard?
Ben, en fait, elle vient rien troubler, elle est là, et elle vit, elle existe, elle fait ses trucs, elle grimpe, elle marche sur un fil, et elle gobe les mouches, et quand il y a à boire, elle boit.
Pourtant, elle remet en question plein de choses chez la narratrice.
Ah oui, ça oui. Elle remet en question, justement, ce que peut être le fond d'une relation humaine, et est-ce que c'est toujours nécessairement pris dans un jeu social, ou un jeu de domination, ou un jeu de séduction? Et ça, oui, elle ébranle un peu ses convictions.
Et elle remet en question aussi la possibilité de la solitude, non?
Oui, sûrement, mais je pense que c'était déjà remis en question, que la solitude dans laquelle se trouve ma narratrice est tout à fait relative et qu'elle en était assez consciente.
Elle dit, votre narratrice, je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un être humain. Dès que je vois un être humain, j'ai l'idée d'une relation entre lui et moi. Et je me suis posé la question, vous trouvez qu'on les regarde assez, les autres, dans notre société, Céline Minard?
On les regarde, oui. Mais est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les rencontre? Ça, c'est beaucoup plus difficile de dire oui. Les rencontres sont rares, je pense.
Et c'est ça que vous défendez à travers un texte, à travers un roman?
Sûrement, oui. Que le point essentiel entre humains, c'est certainement la rencontre. Et que ça, c'est très risqué.
Ça donne une fonction, en fait, à la littérature, à votre littérature. En dehors du livre.
Une fonction.
Permettre de se rencontrer. Un livre, quand on le lit, ça nous invite à un ailleurs, et en l'occurrence, à permettre de se rencontrer.
Oui, oui, mais un livre aussi, c'est une rencontre possible, pas obligatoire, possible.
Entre un auteur et un lecteur?
Entre un texte et un lecteur.
C'est quoi la différence?
C'est pas une personne, c'est un texte.
C'est-à-dire que le texte vous échappe en tant qu'auteur?
Le texte m'échappe forcément, mais enfin, il est quand même assez maîtrisé. Mais il m'échappe à partir du moment où quelqu'un d'autre le lit.
C'est dur de les lâcher, ces textes?
Non.
En tout cas, dans Le Grand Jeu, il y aura bel et bien une rencontre de regard. Rencontre qui s'effectuera aussi autour de l'alcool. Et c'est une scène d'ivresse, quasi dionysiaque, que j'aimerais vous lire. Page 177. Il restait une goutte d'eau de vie dans le fond. Je l'ai mise d'un coup sec dans ma bouche et elle a pris ses aises. Mon palais s'est développé dans des proportions de hall de gare. Les murs étaient tapissés de lianes et de joyaux tressés. Le plafond en coupole était peint à la fresque, blanc l'instant suivant, taillé dans un bloc de marbre finement veiné. Le sol était comme un tapis, un trampoline, un matelas de duvet, le ventre d'un escargot. Les parfums circulaient dans la grotte palace, dans des flacons de porcelaine accordés aux teintes changeantes du plafond. Ils entraient par la porte de service, passaient sur le tapis, envahissaient la coupole et sortaient par la cheminée. Avant de disparaître, ils laissaient flotter derrière eux comme une traîne de cerf-volant. Et puis l'alcool est descendu dans mon corps et j'ai fait de la spéléologie sur une planche de surf à toute épreuve. Génial. Assez génial. Écrire ça vous met dans cet état-là, vous ?
J'aimerais bien que ça le fasse tout le temps, mais c'est pas vraiment le cas.
Quelque chose de l'ordre de l'ivresse.
Oui, de l'excès. Oui.
De l'excès. Et c'est le cas quelquefois.
Oui, c'est le cas quelquefois.
Là, par exemple, pour ce type de description, c'est le cas.
Non, ça c'est très mesuré, c'est très concentré, il faut être très détaché pour et justement pour ces scènes d'excès, c'est toujours le plus pointu qu'il faut être.
C'est un extrait très intéressant en fait, parce qu'il fait surgir cette langue onirique, poétique, foisonnante, à mille lieues de celle que vous employez dans le reste du livre, Céline Minard. Qu'est-ce qui se joue en fait dans ce type de scène-là, dans cette scène-là ?
C'est une brèche, je pense. C'est une brèche et qui fait passer dans une autre dimension, à la fois de la langue et de l'expérience et de la pensée qui là n'est plus de l'ordre de la réflexion.
Vous ouvrez des brèches ?
J'espère.
Et pourquoi vous en ouvrez si peu ?
Ah, parce qu'il en faut pas trop s'il y a que des brèches, il y en a plus.
On tombe. C'est ça le problème. Chaque livre, pour vous, vous le dites parfois, c'est l'occasion de réinventer ou la langue ou d'inventer une langue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire de fabriquer ou de démulsifier un monde. C'est ça, ça va avec. Pour moi, chaque livre a son propre état de langue et son propre ton.
C'est pour ça que vous changez de genre tout le temps ? Passant par le fantastique, par le western ou par la philosophie ici.
Je crois que je change pas de genre en fait, mais je mélange les genres. Comme je lis différentes choses, j'écris différentes choses et puis justement, c'est toujours des histoires de rencontres. Si on met une graine de SF, disons, dans le plus pur roman réaliste, qu'est-ce que ça donne ?
Vous parlez d'une littérature qui serait essentiellement bâtarde ?
Bâtarde et expérimentale dans le sens d'expérience, presque chimique.
Et comment on la bâtardise, la langue ?
Oh, ben elle est déjà bien bâtarde, il suffit d'insister un peu et puis de creuser justement et d'aller voir ce que c'est que ses racines et la polysémie et ça marche tout seul.
Au dictionnaire ?
Dictionnaire, j'aime bien.
C'est-à-dire ? Vous avez un dictionnaire à côté de vous quand vous écrivez et...
Ben, j'en ai plus, malheureusement, parce que c'est lourd.
Ah non, ne me dites pas que vous êtes un auteur Google, Céline Minard, ça serait dramatique.
Non, pas Google, mais Cresco, tout ça, oui, je consulte pas mal. Mais enfin, ça reste le littré. Mais bon, moi j'aime beaucoup le dictionnaire historique de la langue française de Ray, et ça je vais quand même voir régulièrement.
Pour dessiner des filiations entre les mots, pour trouver des...
Pour être surprise par justement l'endroit, puis l'étymologie c'est pas vraiment l'origine, c'est aussi la construction. Et pour être surprise du chemin que prend le mot.
Et ça vous arrive d'en inventer des mots ?
Je crois pas.
Parfois, on a besoin d'un dictionnaire quand on lit une phrase de Céline Minard. C'est aussi ça, à ça que vous invitez ?
Non, certainement pas. J'invite à se laisser faire. Et si on ne comprend pas un mot, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il a une présence sonore. Et il est dans un contexte. Donc on comprend sa fonction. Après la lecture, on peut se demander, oui, allez voir ce que c'est qu'un spit ou un coinceur. Mais dans le moment de la lecture, il faut juste se laisser porter par le spit et par le coinceur.
C'est quoi un spit et c'est quoi un coinceur ?
Ben, vous irez voir.
C'est par la musique d'une langue qu'on aime tous les deux, en l'occurrence à la folie, que j'aimerais qu'on termine cette émission. Vous avez choisi de nous lire deux poèmes d'Emily Dickinson, tirés de son recueil « Lieu dit l'éternité ». Ces poèmes, vous avez souhaité qu'on les lise à deux voix, en anglais et en français. Pourquoi deux voix déjà ?
Parce qu'il faut entendre l'anglais, là.
Vous n'allez pas m'engueuler non plus. On y va ?
On y va.
« A toad can die of light ».
Un crapaud peut mourir de lumière.
Death is the common right of toads and men.
La mort est la règle commune aux crapauds et aux hommes.
Of Earl and Midge, the privilege.
Du comte et du moustique, le privilège.
Why swagger then?
Alors pourquoi se pavaner?
The gnat's supremacy is largest thine.
La suprématie du moucheron vaut la tienne.
Life is a different thing, so measure wine. Naked of lask, naked of cask, bare rhine, which ruby's mine.
La vie est une chose différente. Aussi mesure le vin, dépouillé de fiasque, dépouillé de fût, pur rhin, quel rubis est le mien.
Puis un deuxième poème d'Emily Dickinson dans le même recueil. Vous l'avez ? Blazing in gold and quenching in purple, leaping like leopards to the sky, then at the feet of the old horizon, laying her spotted face to die.
Étincelant d'or et passant au pourpre, bondissant comme des léopards vers le ciel, puis au pied du vieil horizon, couchant sa face tavelée pour mourir.
Stooping as low as the otter's window, touching the roof and tinting the barn, kissing her bonnet to the meadow, and the juggler of day is gone.
Se baissant jusqu'au soupirail de la loutre, touchant le toit et tintant la grange, saluant du bonnet le champ, le jongleur du jour est parti.
Pourquoi Emily Dickinson, Céline Minard ?
Parce que ça, ce dernier poème-là, c'est vraiment quelque chose qui s'est complètement intégré à un paysage que je voyais tous les matins quand j'étais en montagne. Et cette façon que le soleil, ce jongleur du jour, partait devant moi en tintant la grange et saluant le pré, c'était ça. Et ça s'est intégré à cette prairie.
C'est de cette rencontre dont vous parliez tout à l'heure, en fait, entre le texte ici et la lectrice que vous étiez.
Et le paysage que j'avais sous les yeux, c'était vraiment, effectivement, ça collait parfaitement et c'était un pur hasard, mais que j'ai saisi.
Au point de devenir un texte, là.
Au point de devenir un texte.
Non ?
Non, je crois pas.
Merci beaucoup, Céline Minard, d'être venue faire un tour dans Boomerang.
Merci
le grand jeu, c'est Le Grand Jeu, c'est publié aux éditions Rivage. C'est un livre que j'aime beaucoup, une expérience unique, hein, philosophique, poétique, une expérience d'aujourd'hui aussi. Merci, tout de suite, Sonia De Villers et son Instant M, l'Instant Média de France Inter, juste après ça.
Sur les coups, marche-t-il à l'envers? Ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous? Des girouettes en trombone, leur l'air se dédouble sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie. Les écrans, fermer les yeux, écouter les enfants jouer, j'écoutais les passants presser au feu, ignorer le téléphone. J'ai éteint les écrans, fermer les yeux, écouter les enfants jouer, j'écoutais les passants presser au feu, écouter le vent siffler. Il lance des tirades, puis étend la fontaine, puis part en campagne. En quête d'un Molière, ils me noient sous leurs flots, dans des vagues de sourires, et comme Dalida dit, parole, parole, parole. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur leur front m'effraie.
j'ai compté les passants, j'ai fermé les yeux.